Hey, oui, bien sûr. À l'instant, Peter Frampton avec cet album Do You Feel Like We Do, et cet album justement Peter et Frampton Comes Alive. Ouais. Et oui, voilà, Mathieu le disait, album le plus vendu, tout ça.
Album live le plus vendu de tous les temps.
Voilà.
Crazy Team.
Et attention, on sent un petit jingle de Papch, s'il vous plaît. Il est 11h10.
La spéciale vinyle sur Reef, l'émission qui fait le tour du cadran. Deux fois.
Et bien tout de suite, on va mettre un petit peu, on va remonter un peu dans le temps. On va mettre.
Enfin, ouais, dans le temps, dans la composition, effectivement, on va remettre un morceau de 72. Alors que Peter Frampton, c'était un petit peu après, c'est 76, je crois, ou 75. Et donc là, on va mettre un morceau composé en 72, sorti sur l'album One, enfin sorti originellement sur l'album Everybody's in Showbiz, et qui est ensuite la version que nous allons passer, c'est une version live sortie sur l'album One for the Road, publié en 79, enregistré pendant la tournée de Low Budget des Kinks. C'est donc un très bon morceau qui s'appelle Celluloid Heroes, un morceau très sympa écrit, alors qu'il, en fait c'est une histoire, ça parle beaucoup d'Hollywood Boulevard. Donc ça parle beaucoup, c'est des souvenirs de tournée des Kinks justement, qui ont énormément fait de tournées dans les États-Unis, et ils ont été très marqués par Hollywood Boulevard. Ils ont vraiment fait tout un tas d'écarts dans cette rue en fait, et donc ils voyaient tout cet univers de stars qui était complètement irréel, complètement fictif, surfait et artificiel, et donc ils se sont dit on va faire une chanson justement sur ce monde artificiel qu'on va appeler Celluloid Heroes.
Est-ce qu'il y aurait un problème? Non,
non, c'est juste qu'il y a deux CD que je suis tombé sur le mauvais.
Il y a deux vinyles, et en fait ouais, c'est un double album live, et il faut juste trouver la piste sur le vinyle,
sauf que je sais pas lequel est le deuxième et lequel est le premier, parce que sans que voilà, je sais pas le savoir, ils sont emballés, donc bon voilà,
on patiente, on patiente. Donc une bonne musique de fou.
Eh oui, c'est Billy Cobb Jambon.
Comme Hal.
Voilà, avec des reprises communes entre Jeff Beck et Jeff. Et entre Jeff Beck et Billy Cobb Jambon. Alors, je pense que c'est la dernière à la fin, là, tout ça.
D'ailleurs, Billy Cobb, on se lasse pas de cette anecdote. Il a joué
au même
endroit
que Road 99. Oh là là.
Savoir,
Road 99, voilà, un groupe dans lequel Thomas Nas est l'actuel bassiste, voilà, avec plaisir.
Avec
Thomas à la batterie.
Oui.
Voilà.
Et enfin, Mathieu à la guitare.
Voilà, et Paul au chant.
Et peut-être, Inch'Allah, comme on dit, avec Trotsky. Félix, donc Trotsky.
Voilà, qui nous rejoindra.
Au clavier, s'il a du temps libre, on espère. Qu'y a-t-il ?
En fait, la séparation des pistes n'est pas du tout marquée, en fait.
Ah.
Sur la fin, oui, mais entre les premières pistes, genre, en fait, les pistes Low Budget, Attitude Superman, National F et Till the End of the Day, elles sont toutes collées les unes après les autres, ils enchaînent tout, en fait, il n'y a pas d'arrêt.
Ouais, et après, là, il y a Celluloid Heroes et You Really Got Me qui s'enchaînent.
Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est horrible, du coup.
Ouais, c'est la galère.
1, 2, 3, 4.
Je pense que c'est là.
Moi, je pense que c'est vers le milieu ou les deux tiers de la face.
Comme ça.
Ça, c'était
You Really Got Me.
Ouais.
On va essayer de trouver ça.
C'est ça, mais c'est un peu avant. C'est ça, c'est l'intro, ça.
C'est quoi ça?
C'est ça, t'inquiète, ça va durer 30 minutes.
Ah,
some that you recognize, some that you hardly even heard of.
À l'instant, les Kinks.
Ouais, elle est tordue, attention, les Kinks.
Maintenant, on va passer 5 ans après. On va remettre ce qu'on a mis tout à l'heure avec. Tout à l'heure, c'était il y a quand même.
C'était il y a 40 ans.
Ouais. C'était il y a une quinzaine d'heures presque. Oui, ça doit faire 14 heures qu'on est à l'antenne là.
14, ça fait 13h45.
13h45, ouais, ça fait un peu moins de 15h. Donc maintenant, je te laisse faire, Mathieu, peut-être.
Vas-y, non, je crois que t'avais un titre à nous proposer, hein, si je me trompe pas. Titre avec de beaux claviers.
Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux mettre celle avec le clavier et. Puis après, une chanson électrifiante? On peut en mettre deux, peut-être
Ouais, bien sûr. Ouais, vas-y,
on fait
plaisir
à Mathieu quand même après.
Ouais.
Parce que celle avec le clavier, le fameux clavier. Et... Attends, je te laisse faire. Donc on parle là de Love Gun qu'on a passé hier soir avec Mathieu.
Ah, c'est moi qui l'ai acheté.
Ouais.
Donc on va mettre une première chanson.
Sans moi on l'aurait pas. Christine. Ah, c'est le mec qui force.
Ah ouais, il nous l'a trouvé dans une brocante, Thomas.
En Bretagne s'il te plaît.
En Bretagne.
Vas-y, écoute des bons trucs.
Et moi, il m'a dit est-ce que ça t'intéresse, et je lui ai dit oui, ça m'intéresse. Évidemment. Donc, un des albums préférés d'ici.
Je lui ai dit Clapton aussi.
Évidemment, Christine 16 de l'album Love Gun. Love Gun considéré comme l'un des albums les plus costauds du groupe, avec notamment Destroyer surtout.
Ouais, et puis avec le premier surtout. Le premier live sont les plus populaires.
On a Shiny Dime Loud, on a Black Diamond. Oh là là, cet album.
Chaque putain que c'est un Destroyer.
Ouais, c'est un Destroyer.
Lui, le mec, il connaît pas quoi.
Ouais.
Et voilà, on va donc mettre Christine 16.
Donc du pur Gene Simmons, pour ceux qui connaissent.
Tout à fait, aussi bien dans les paroles que la composition.
Avec la fin de Rest of Your Love, bien sûr.
Voilà.
Pourquoi c'est en accéléré?
Parce que c'est pour aller plus vite.
Ah, ok.
Yeah.
twisted cyclist to girls your age. But when I saw you coming out of school that day, that day I knew, I've got to have you, I've got to have you.
C'était donc Christine Sixteen.
Donc, si vous parlez bien l'anglais, vous avez deviné de quoi parle cette chanson.
Ouais.
Sinon, vous épargnez les détails.
Si vous ne voulez pas savoir. Tout craché.
Et donc, maintenant, on va passer une deuxième piste de l'album Love Gun. On va parler de Shock Me. Première chanson sur laquelle le guitariste Ace Frehley prend la parole. Il a composé beaucoup de titres auparavant, sur le premier déjà, ouais. Sur le deuxième, troisième, sur quasiment tous les albums, il me semble.
Il a composé au moins quelques morceaux à chaque fois.
Mais toujours, il a toujours refusé de chanter. Et certains émettent aussi l'hypothèse de l'affirmation de Gene Simmons et de Paul Stanley. Donc Shock Me, une chanson donc électrifiante, choc, voilà. Pourquoi cette chanson? C'est lors d'un live. Pour ceux qui connaissent, Kiss aime faire des grands shows tape l'œil. Et ces escaliers sont souvent illuminés avec des grandes décharges, ouais, voilà, des gros éclairages. Et Ace Frehley, une fois, a voulu descendre de cet escalier. Et une des. Il me semble que l'une des marches n'était pas
isolée.
Et il a marché dessus, il s'est évanoui, il aurait pu mourir. Je crois qu'à un moment, son cœur a arrêté de battre pendant plusieurs minutes. Et donc, le concert, il me semble, a été annulé. Il n'y a pas, de truc dingue, quoi.
Il n'y a pas de bootleg de ça?
Non, il n'y en a pas. Il ne me semble pas. Et donc, voilà, il raconte ça. Il raconte aussi que pour la chanson, il l'a chantée. Il était tellement stressé à l'idée de la chanter qu'il préférait la chanter allongée. De manière assez originale.
Ah
ouais.
Je me souvenais pas de cette anecdote.
Voilà.
Ah, anecdote intéressante, ça, Thomas.
Ouais.
Il y a Azrael qui est là, il dit allez vous coucher, il est tard. Voilà. À 11h30, là.
Donc voilà, on peut se la passer.
Thomas, là, c'est Mathieu qui nous présente un petit peu de Kiss, là. Et Azrael, et là, on s'écoute Shock Me, du coup.
Sur un vinyle acheté par Thomas.
Ah là là, en montagne, n'est-ce pas?
Grows. You make me feel at ease.
Qui c'est qui a un micro de son casque là?
Et voilà, c'était donc Shock Me, un morceau sorti sur l'album. Donc sur l'album.
Love Gun.
Love Gun, effectivement.
Et donc maintenant, on va se mettre un peu encore de Ronnie James Dio. On a passé deux titres hier soir. On en profite pour en mettre un nouveau. Donc, on va mettre. À moins que Mathieu, tu veux y mettre autre chose que Straight to the Heart.
Ça vous ennuie,
non. Non, moi je pense que c'est une bonne idée.
Ouais, vas-y. J'attends que tu ranges. Donc vraiment un album magnifique, quoi. Il y a beaucoup de titres cultes sur ce premier album, très bien réalisé. Puis les rééditions après étaient super intéressantes. On trouve des rééditions notamment avec des commentaires, des interviews.
Ouais, cette version-là est vachement bien, effectivement. Ouais.
Bonne réédition, parce que souvent on retrouve des rééditions, des remixes assez tristes, enfin tristement chiantes, quoi.
Ouais, moi je pense notamment aux remix d'Ozzy qui sont certains catastrophiques, franchement, rien ne vaut les originaux. C'est rare que je dise ça, mais franchement, les remix d'Ozzy, voilà, donc il y a des versions où ils ont enlevé les musiciens originaux en 2002, il y a des versions où ils ont compressé à mort, même s'il y a les musiciens originaux, donc c'est quasiment inaudible, c'est beaucoup trop compressé, les balances sont pas respectées. Donc franchement, les rééditions de Dio sont top. Elles ne détériorent pas la réputation de l'album et elles nous font toujours, elles nous apportent quelque chose d'intéressant.
Moi j'en parlais tout à l'heure, on parlait d'albums détériorés par des rééditions. Je parlais notamment de Megadeth sur son deuxième album Peace Sells But Who's Buying, avec le mix de Randy Burns en 97. La basse totalement modifiée sur et qui pourtant donne la basse qui donne lieu à de bonnes intros, voilà, on fait beaucoup profiter la basse sur cet album et des fois la réédition gâche un peu ce plaisir
de l'album, effectivement, ouais, tout à fait.
Et donc alors Straight Through the Heart de Ronnie James Dio, c'est quelle piste?
C'est la première piste de la deuxième face, voilà. Et donc on va se l'écouter tout de suite. Voilà, un morceau assez long mais très intéressant, très intense, sorti sur le premier album solo de Dio, juste après son départ de Rainbow, son départ de Rainbow, puis il a joué avec Black Sabbath ensuite à un certain moment, où il a sorti l'album notamment Heaven and Hell et Mob Rules, qui sont deux albums cultes de Black Sabbath, et après il s'est lancé en solo, pour justement faire ses propres projets, et il a recruté le jeune guitariste Vivian Campbell, qui est depuis qui joue avec Def Leppard et qui est un très très bon guitariste, vraiment un gros coup de cœur pour ce guitariste quand je l'ai entendu la première fois.
Je sais pas s'il est plus connu en tant que membre de Def Leppard ou
guitariste de Dio, je pense qu'il est plus connu comme guitariste de
Def Leppard, c'est plus récent quand même, je crois que c'est 90 des années 90.
En fait, dans Def Leppard, il a remplacé Phil Collen, si je me trompe pas. Non, pas Phil Collen, Phil Collen est toujours en vie. C'est Steve il a remplacé Steve le guitariste rythmique, hein, le compositeur de Def Leppard, et donc il l'a remplacé. Steve est mort en 93, donc Vivian Campbell l'a remplacé vers ces années là dans les années 90.
Voilà,
sans plus attendre, on va se passer Straight Through the Heart.
Sleep, and they don't know what you feel.
Straight Through the Heart. Donc maintenant on va se mettre un peu de Ozzy Osbourne.
Oh yeah.
Au plus grand plaisir fois 666 de Mathieu. Donc on va se mettre l'album Blizzard of Oz, le premier album solo.
Voilà, un des plus gros singles qu'il a, enfin son single de l'album justement, qui est donc peut-être un de ses morceaux les plus populaires. Même si il y a que des bons morceaux dans, enfin il y a énormément de bons morceaux chez
Ozzy. Quand on est fan, ouais, tout est bon.
On est fan effectivement, mais bon, je reconnais qu'il y en a qui sont mieux que d'autres. Celui-là est excellent. Donc on va tout de suite se passer Crazy Train.
Voilà, on la sort de ça.
Voilà. Alors il est méticuleusement emballé parce que on est des très gros fans. Du coup, et ben voilà, il est vraiment très bien protégé. C'est un original de 1980, pardon, 1980, donc l'année de la sortie.
Alors, pour ceux qui connaissent la chaîne YouTube WatchMojo.com, qui s'amuse à faire notamment des classements, donc classe Crazy Train comme le premier riff reconnaissable dans tout ce qui est heavy metal. Voilà.
Effectivement, parce que c'est un riff qui est absolument unique.
Quand même très très lourd. Piste numéro 2.
Yeah.
l'instant, c'était donc Crazy Train, un morceau d'Ozzy Osbourne sorti sur son premier album enregistré en 79 et sorti en 80. Alors j'ai bien vu les commentaires sur le chat. Alors en fait, ce vinyle, quand je dis que je le déballe, il n'était pas sous blister. Hein, il était juste, c'est juste que je le, vu que je suis fan, je le mets dans un emballage que je referme à chaque fois. Et donc c'est un très très bon emballage pour protéger au maximum ce vinyle que j'adore. Et effectivement, le vinyle, je vois les commentaires sur le vinyle, effectivement, c'est audiophile. Et en fait, il y a des. Moi, pour défendre un peu le vinyle, effectivement, ce que je peux dire, c'est que voilà, cet album d'Ozzy Osbourne, il sonne très très bien en vinyle. Et moi, j'ai toutes les rééditions en CD. Et je peux vous dire que le vinyle avec les CD des années 80, c'est ce qui sonne le mieux, c'est-à-dire le mix original. Toutes les tentatives de remix sont beaucoup moins bien que le mix original. Donc vous l'achetez soit en vinyle, ce qui est assez facile à trouver, comme moi je l'ai fait, vous le trouvez d'occasion et c'est super intéressant avec le mix original, soit en vinyle sur le label Jet, soit vous achetez les rééditions des années 80 sorties sur le label Jet, distribuées par CBS, qui sont aussi excellents mais qui sont en CD. Voilà, pour ceux qui aimeraient cet album et qui ne savent pas quelle version acheter, il faut acheter la version CD des années 80 ou alors n'importe quelle autre version. La dernière est sympa aussi, hein. La dernière version, celle de 2011, a des petits bonus très intéressants. Donc vraiment recommandé, si vous cherchez un CD vous pouvez, et que vous avez du mal à trouver, la meilleure à acheter certainement, ça peut être celle de 2011. Moi j'aime beaucoup aussi celle des années 80. Voilà, on va donc ranger le vinyle. Est-ce qu'on a des propositions pour un prochain vinyle?
Alors, tu me suggérais tout à l'heure en off Led Zeppelin.
Mais je sais pas trop si on va le passer.
Tu me suggères peut-être Led Zeppelin numéro 2.
Quelqu'un veut le mettre?
Bien, non?
Ouais, vous voulez mettre laquelle de piste dedans?
Attends, je vais se ranger en attendant. Donc ça se prépare, Led Zeppelin numéro 2. Je laisse faire ces messieurs. Voilà. Puis après, on ne sait pas encore ce qu'on prévoit pour midi. On prévoit déjà Niblishim. On lui laissera faire ce qu'il aura envie de faire. 13h, est-ce qu'à 13h on se fait encore un truc d'actu ou pas? Tu rappelles, est-ce que c'est nécessaire?
Pas trop, je pense, je sais pas. Vous avez, enfin, c'est pas
vraiment... ça peut être sympa, mais bon.
Après, dans le sens où il n'y a pas grand chose qui s'est passé entre 7
voilà. Et 13 ans. Bah, c'est, oui, mais enfin.
Je pense que le mieux serait mieux faire ça s'asseoir à l'arrivée.
Ouais.
Quelque chose dans la soirée, tu vois, serait mieux.
Ouais, mais. Homebreaker.
Elle ne suit pas un peu celle-là.
Non, Heartbreaker.
Ah, ok. Yeah.
Donc Heartbreaker de Led Zeppelin numéro 2.
Sorti en 70 sur l'album Led Zeppelin 2, un album écoulé à des millions d'exemplaires, sorti sur le label Atlantic. Je vais donc laisser la place à Thomas pour qu'il puisse nous mettre ce magnifique vinyle.
Voilà, tu peux le poser là, déjà parce que...
Ouais, je vais le mettre effectivement.
C'est la bonne façon.
Ok.
Voilà, ça vient.
Oh, boss.
C'est pas la bonne face, non.
Si, je t'avais donné Heartbreaker. C'est le premier en haut en vert.
Ah si, ouais. J'avais pas vu.
We'll be right back. Oh là là, bravo, oui.
Bravo.
Voilà.
Ah, c'est bon, là, toutes les pistes sont...
Voilà, absolument.
Surtout vous bien mis, c'était à l'instant, donc, Heartbreaker de Led Zeppelin, sur quel album? Led Zeppelin 2, c'est ça?
Led Zeppelin 2, effectivement.
Led Zeppelin 2, voilà, c'était un bien bon morceau pour... eh bien, pour finir là, on va dire une sorte de créneau animé par Mathieu et Thomas Nanas, que vous venez d'entendre.